Cet été, sur mon chemin, j'ai rencontré le monde du nucléaire. Moi qui partais de rien, j'ai essayé d'y voir un peu plus clair. J'ai poussé la porte d'un monde un peu sordide, au passé malheureux, qui promet un avenir aride, plus irradié que radieux. Je suis arrivé les mains dans les poches, dans une campagne agonisante, au milieu d'un truc qui cloche, quatre grosses cheminées crachantes. Symbole d'un monde qui chaque jour s'effiloche, toujours plus pourriture effrayante. Alors dans ce champ, comme au Cinoche, j'ai maté cette nature, peu rassurante. La plantée dans l'herbe cramée, je me suis posé 10 000 questions sur les canons que surplombaient et sur l'histoire des environs. Je te parle de centrales nucléaires qui détonnent dans les collines. En plein milieu de l'Isère, elles semblent faire partie de la routine. Pourtant cet été, j'ai découvert des histoires franchement pas clean. Un passé chargé de misère, loin de ce qu'on nous baratine. J'ai rencontré des anciens en colère qui ont lutté dans le brouillard. Des vieux hommes aux yeux clairs qui habitent au milieu de ce foutoir. Ils racontent leur monde d'hier en m'offrant des verres d'eau. Moi j'ai tiré de mes affaires un stylo noir et un micro. Ils nous ouvrent leur passé depuis le fond de leur accoudoir. Des histoires de luttes passées, Super Phoenix, Buget, même passé noir. Voilà une trace des condamnés sur une nouvelle carte mémoire. Dans cette campagne toute souillée, y elles opposent une autre histoire.
La première année où on a commencé à se poser des questions, c'est en 73. Mon père voit des gens dans son champ en train de faire des sondages. Puis il va les interroger et puis ils me disent, non, ça ne vous regarde pas. Alors, mon père, heureusement, est quelqu'un de plutôt pacifique, sinon je pense qu'un autre leur aurait mis sur la figure. Il a dit, bon, très bien, puis il est allé se renseigner dans tous les canaux qu'il a pu essayer de trouver pour voir ce que ça pouvait être. Et les canaux les plus fiables, ça a été des scientifiques indépendants. Lui ont dit assez vite, qui lui ont dit, ben voilà ce qui se passe, il y a une centrale qui est prévue, c'est un modèle nouveau au plutonium. Plutonium, c'est quand même au départ pour faire des bombes, même si c'est pas prévu pour faire des bombes là, encore que le plutonium de couverture au départ était bien prévu pour alimenter des bombes, donc c'était pas complètement indépendant, enfin bref. Et donc à partir de ces années-là, il a commencé à faire des réunions d'information avec ces, en particulier ces deux personnes, une qui est décédée, une qui est toujours vivante, pour expliquer aux gens du coin, ben voilà, on vous dit ça, mais il y a d'autres façons de, on peut vous expliquer que c'est pas complètement ça qui pourrait se passer, on a une autre version à vous proposer. Et puis en même temps, il y a eu une première manifestation, alors en 74. C'est ça. En 74, on était une trentaine à peine sur le terrain, on avait enlevé les piquets de terrassement, et même, je me rappelle, une pancarte, c'était marqué centre réacteur numéro 3, pour vous dire qu'ils avaient, ils voyaient grand. On les avait pris, on les avait fait un peu de camp avec. Voilà. En 75, il y avait 250 personnes en face de, dans l'Ain, vers Rix, qui est un petit village un peu plus bas, là, enfin, voilà. Et puis là, il y avait 250 personnes, à peu près. J'avais très peu participé à celle-ci, parce que bon, ils font ça l'été, et nous les paysans l'été, un peu du boulot, donc voilà, on n'avait pas toujours le temps de faire ce qu'on voulait. Et puis, alors là, en 76, là, il y a eu plus de 5000 personnes, il y a eu déjà de la répression que j'ai vue de mes yeux, qui m'a profondément choqué, c'est-à-dire qu'il y avait un campement de manifestants qui étaient là, les CRS avaient fait un barrage, enfin, barré la route, mais les campeurs, en fait, les CRS voulaient déménager le camp, mais de façon militaire, enfin voilà. Moi, j'ai vu une famille partir, ça me rappelle à l'époque, si ça vous parle pas, mais une Ami 8 break, c'est une bagnole, elle n'existe plus. Et les CRS, à coups de crosse dans le pare-brise, les gamins derrière étaient terrorisés, ils avaient leur couteau de combat, ils lacéraient les tentes, il y avait déjà des grenades offensives, mais miracle, il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de mort. Des blessés, il y en a eu, mais pas extrêmement graves. Et puis moi, j'étais là-bas dessous. Quand j'ai entendu claquer les grenades, j'étais là. C'était à 500-600 mètres. À travers le champ, j'y suis allé. Heureusement, quand je suis arrivé, il y a un CRS qui m'a vu. Il a voulu me massacrer, mais il y avait un conseiller municipal qui me connaissait Il a dit non, il est avec nous. Puis comme il y avait le maire en écharpe avec les conseillers, là, les CRS, ils ont quand même pas osé taper dessus, mais ils ont quand même tiré des grenades sur les grenades pas offensives, mais au moins lacrymogènes sur les pompiers qui arrivaient, parce qu'on était en 76, c'était la grande sécheresse. On s'est dit, mais ils vont foutre le feu avec ces conneries. Enfin, voilà. Pour vous dire le contexte, qui était déjà impressionnant. Et puis alors là, en 77, là, ça a été le dérapage complet, puisque 60 000 personnes, donc 8 amis Chalon tués, avec une grenade offensive, et puis deux blessés graves, enfin un troisième, on peut pas l'oublier, mais c'était du côté des CRS, parfois les risques du métier, hein. Quand on manipule des armes de guerre, parfois c'est son problème, mais un Allemand et un Français, donc Michel Vengeant, Français, qui a eu pied arraché par une grenade offensive, et l'Allemand, il a voulu rebalancer la grenade pour protéger ce qui était autour de lui, c'est la main qui a volé. Donc voilà un peu le bilan humain de cette manifestation. Et c'est vrai que ça a été un coup d'arrêt quand même important. Le gouvernement voulait faire ça, il voulait mater la contestation et mettre un coup d'arrêt, ce qu'il a en partie réussi. Donc ça c'est pour faire très très court et pour dire un peu la façon globale dont ça s'est passé. Et moi là-dedans, comme je vous l'ai dit, en 76, là j'étais présent. Par contre, en 77, là j'étais armé, parce qu'à l'époque ça existait. Et pas volontaire, hein, pas engagé, mais comme tous les autres. Et là, j'avais pas intérêt à me pointer à la manif, parce que si je me faisais ramasser, là c'était la tôle. Quand t'es à l'armée, t'as pas le droit de manifester. Enfin, t'avais pas le droit. Ça n'a pas empêché que j'ai quand même bien suivi ce qui se passait, parce que bon, on écoutait la radio et tout, et puis malheureusement, quand il y en avait Vital là dans la cour, j'étais là, et c'était un moment très dur. Très dur parce qu'il y a, on vous amène un jeune, là, qui manifeste sur une civière, on nous dit, il est mort. Et puis là, il y a, parce qu'ici, c'est un centre secours, qui était organisé. Il y avait un médecin qui était là, un interne, un jeune interne, hein, et qui était là pour justement pour assurer les soins et tout. Il se penche vers Vital, il se relève, il a tout de suite compris. Et je l'ai vu, il s'est relevé, il est parti en hurlant au fond de la cour en disant « Si on m'amène un CRS blessé, je l'achève. » Ça, j'ai jamais oublié. Pour qu'un médecin dise ça, le gars, il en avait gros sur la patate. Donc voilà, on a vécu ce genre de choses. Et puis, 2 heures après, on entendait à la radio Vital Michalon mort d'une crise cardiaque. Alors qu'il savait très bien que c'était pas ça du tout. Puis après, il y a eu un procès, alors en 77, un procès justement par rapport à tout ça, mais ça a été une honte. Il faut voir, sur Internet, vous pouvez trouver des extraits de gens qui sont fait choper, des manifestants qui se sont fait attraper, et ça a été une honte pour la justice française. Et voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même une grosse tache sur notre histoire.
C'est au début de cet après-midi à Cresmalville que tout a brusquement dégénéré. Le puissant dispositif policier mis en place autour de la future centrale atomique a été obligé d'intervenir pour refouler des commandos de manifestants casqués et armés de cocktails Molotov qui tentaient de franchir les barrages et de pénétrer dans la zone interdite. Les affrontements ont été si violents qu'il y a eu un mort du côté des manifestants et plus d'une centaine de blessés, dont 5 gendarmes mobiles grièvement atteints. Notre envoyé spécial, Daniel Duigou, et les caméras de TF1 étaient là au moment des affrontements les plus durs.
Tout de suite, je vous propose de regarder les images qu'avec l'équipe de TF1 nous avons pu filmer. Et tout d'abord, la tragédie. Alors que les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants se poursuivent, une équipe médicale avec un médecin va livrer en vain une bataille contre la mort. Pendant environ un quart d'heure, tout ce qui est possible sera fait. Bouche à bouche, perfusion, massage. Mais bientôt, il faudra reconnaître cruellement les faits. Ce manifestant de 31 ans, M. Michalon, qui habitait à Die dans la Drôme, a succombé à un arrêt cardiaque. L'autopsie, pratiquée peu de temps après, le confirmera. Mais revenons en arrière pour suivre le fil des événements. Il est 7 heures, alors que la pluie commence à tomber, elle ne cessera d'ailleurs pratiquement pas toute la journée, et quelques 18 à 20 000 manifestants quittent leurs 4 lieux de campement pour se diriger à pied, pour la plupart, vers le site interdit de Cresmalville. Plusieurs tentatives d'infiltration échouent. Il est 13 heures. Au moment même où notre journal commence, c'est un face-à-face, force de l'ordre manifestant. Cela se passe près de la petite localité de Faverges, située à la bordure de la zone interdite. Les manifestants sont une dizaine de milliers afflués, mais surtout près de 2000 autres sont armés de casques et de bâtons. Ils prennent position. Par haut-parleur, la police précise que sur ordre du préfet, elle s'opposera à l'entrée des manifestants dans la zone interdite. Et comme réponse, c'est un jet de pierre. Plusieurs cocktails Molotov sont lancés. Une voiture prend feu et c'est l'affrontement très violent. Côté force de l'ordre, 5 blessés, dont 2 grièvement, et un policier aura la main arrachée par l'explosion, vous le voyez, d'une grenade offensive. 5 arrestations, 2 manifestants de nationalité allemande, grièvement blessés et hospitalisés, ont été inculpés. Côté manifestants, plus d'une centaine de blessés et malheureusement une mort. Dès que cette terrible nouvelle fut apprise, le gros des manifestants qui n'étaient pas venus pour se battre se replia, laissant quelques centaines d'autres, ceux-là casqués, stationnés à proximité des barrages de police. 17 heures, nous rencontrions un des responsables.
Plus tu avances, plus tu en prends dans la figure. Donc tu deviens, on peut dire qu'ils sont devenus quelque part des résistants. Et donc, en essayant de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui est prévu de faire là, bon, centrale nucléaire, oui, mais quoi? Un surgénérateur? Mais qu'est-ce que c'est un surgénérateur? Comme mon père est quelqu'un d'assez cartésien, enfin, il était assez cartésien, il a dit, ben, je veux comprendre ce qui se passe. Alors, à l'époque, je suis presque entendu parler, maintenant, je sais plus, ça existe, une revue qui s'appelait Science et Vie. Il s'est complètement documenté avec ça. Il en était au point que quand les, plus tard, quand les directeurs de la centrale, parce qu'il y a eu tout un épisode avec la fabrication d'électricité à partir de méthane, donc on avait une centrale ici qui fonctionnait avec du méthane et qui a fait l'électricité et qui a été rentable, ce qui est pas le cas d'ailleurs. C'est de notre côté. La plupart des directeurs, que t'es pas des cons d'ailleurs, la plupart, ils étaient interloqués par ça, ils venaient en visite à mon père. Ils étaient étonnés de la connaissance qu'il avait du principe du surgénérateur. Ah oui, ça les a beaucoup surpris, la plupart. Et parce qu'en fait, pour faire court, donc mon père a toujours dit, c'est très bien d'être contre quelque chose, mais faut prouver qu'il y a autre chose. Parce que être contre, c'est facile. Mais proposer autre chose, c'est beaucoup plus difficile. Donc, moi, je veux faire de l'énergie autrement. Alors, l'avantage qu'il a eu, c'est qu'il en avait entendu parler quand il était plus jeune, parce que mon grand-père paternel avait travaillé un petit peu le dossier. Il a trouvé des papiers, dans les papiers de mon grand-père, des petits dossiers faits sur la méthanisation, avec les moyens de l'époque. Sauf que lui, bah, il a été plus loin avec des moyens plus modernes. Et il a mis en place une installation qui a fonctionné de 1980 à 2000 pendant 20 ans, et qui a fabriqué l'électricité qui est partie sur le réseau à côté d'un truc qui a jamais marché. Ça, c'était sa fierté. C'était sa vengeance. C'est une machine à vapeur, Super Phoenix, en fait. Ça a le rendement d'une machine à vapeur. C'était le cycle de Carnot, c'est à peu près 30%. Pourquoi? Parce qu'on part d'une source chaude, et après, on va faire tourner un alternateur à partir d'un système de transfert de calories et de faire ça dans un détendeur, et on obtient de l'énergie comme ça. La machine à vapeur, c'est ça. Simplement, on a remplacé le charbon par du plutonium, et la combustion du charbon par la fission du plutonium. Effectivement, avec des masses très très faibles, on obtient une énergie assez importante, très difficile d'ailleurs à maîtriser. Mais là où les technocrates, ils ont fait très très fort, c'est qu'ils ont réussi, enfin ils ont trouvé que pour en fait conduire, récupérer la chaleur produite par la fission et la transmettre pour pouvoir la récupérer et la détendre pour pouvoir faire tourner la turbine, les turbines, et donc faire tourner des gros alternateurs, eh bien, il fallait un liquide caloporteur. Et ce liquide caloporteur, c'est-à-dire le liquide qui transporte la chaleur, c'est du sodium. Liquide. Si tu veux, quand tu prends le plutonium d'un côté et le sodium liquide de l'autre, c'est à peu près les produits les plus dangereux que l'homme n'ait jamais inventés, et tu les mets l'un dans l'autre, dans l'installation. Faut être technocrate pour faire ça. Comme disait Coluche, un philosophe bien connu, les technocrates, tu leur donnes le Sahara, et puis 5 ans après, ils vont acheter du sable ailleurs. Enfin, je sais pas si tu vois, ça montre un peu le raisonnement de gens qui sont complètement à côté de... C'est pas du tout un raisonnement scientifique. Un scientifique, il va faire une expérience, il va te dire, ah oui, là, cette fois-ci, ça a marché. On va recommencer pour voir si ça... Là, les technocrates, ils construisent Phoenix, 250 mégawatts, ça marche pendant 1 an et demi, 2 ans, paf, allez, on construit Super Phoenix, 3 fois plus gros. Et puis là, c'était la grosse cagade. Le sodium, ils l'ont donc, qui est faiblement radioactif, pas trop, parce qu'il n'a pas trop servi, ils l'ont coulé dans du béton, et pour l'instant, ils le stockent sur le site. C'est vrai que là, bon, c'est pas complètement déconnant, puisque une fois que c'est coulé, c'est stable, il peut plus réagir avec l'eau, il peut plus réagir avec l'air. Voilà, donc c'est une façon. Bon, par contre, ce qu'on laisse à nos enfants, aux petits-enfants, c'est pas sympa, mais c'est des merdes, on va laisser des plus graves que ça, quoi, si je peux faire des comparaisons. Mais voilà comment on a réglé le problème des déchets de Super Phoenix. T'as 2 cœurs qui sont dans une piscine pas sécurisée, et t'as ces blocs de béton qu'on va laisser aux générations futures pendant je sais pas combien de temps, parce que pour l'instant, on sait pas les traiter autrement, quoi. Je me rappelle trop les différents directeurs de la centrale auxquels mon père disait « Mais messieurs, vous faites quoi des déchets ?» C'était ça la question, généralement, sur laquelle ils se plantaient. Mais on saura les traiter. Mais mon père insistait, vous savez les traiter? Non, mais on saura, la technologie nous permettra de le faire.
Les forêts ont fermé, les parcs ont fermé, les rues ont fermé, la ville va fermer. Tant mieux, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde qui crève. Je suis arrivée les mains dans les poches et j'avance sur mon sentier de cailloux boueux, avec mon sac à dos de carton et mes questions dans la bouche. Je dors sur la paille des poètes et je voulais faire du monde un carnaval. J'ai cherché un autre monde, mais le secret est là, c'est qu'il n'y en a pas. Il y a simplement d'autres manières de vivre à l'intérieur. Les grands de ce monde veulent cadenasser les mots, amoindrir leur sens, diminuer leur portée. J'aime pas les monochromes, encore moins ceux de la pensée unique. Cet été, sur mon chemin, j'ai fait un pas de côté et je suis allée trouver de nouveaux récits, écouter des histoires cachées sous les cailloux de béton et à l'ombre des centrales, pour essayer de comprendre là où j'ai atterri. Prendre d'assaut le château fort qui est le discours officiel, l'histoire officielle, pour ensemble la déconstruire pierre par pierre et créer d'autres architectures. Proposer d'autres voies que celles des idiots qui veulent irradier le sol, d'autres voies que celles de leurs complices, ceux qui ont mis notre futur dans des valises pour l'échanger contre de l'argent sale et quelques chips. Le monde de ces couillons de luxe se casse la figure. Viens, on lui fait un croche-patte et on l'achève.